BW. Droits et libertés.
Au menu cette semaine, la paupérisation des vieux et en l'occurrence de survivants de l'Holocauste qui dépendent de la soupe populaire en Israël. Et puis on parle aussi des difficultés des habitants d'Afrique du Sud à se débrouiller au quotidien pour surmonter les délestages et vivre donc souvent sans électricité. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Il est l'heure de débarrasser et de faire la vaisselle dans la cuisine du Be'er Sova, dans le centre-ville de Be'er Sheba, en Israël. Le midi, cette structure livre des repas à domicile ou en vend à des clients qui viennent les chercher eux-mêmes. En règle générale, il s'agit de plats traditionnels, un peu gras, mais roboratifs. Be'er Sova, ça veut d'ailleurs dire « fontaine de satiété ». Yosef a 87 ans, il vient ici depuis plus de 20 ans maintenant. Il a même travaillé à Be'er Sova comme bénévole. Yosef est né en 1934 en Moldavie, dans une famille juive.
Quand les Allemands sont arrivés en Moldavie, on a fui à pied. Si on était resté, les nazis nous auraient tués.
Et Yosef raconte l'exode pénible de sa famille. Après la chute du rideau de fer, donc bien plus tard, dans les années 1990, Yosef a fait partie du million de Juifs, peut-être plus, qui ont quitté l'Union soviétique qui était en train de s'effondrer pour s'établir en Israël. Be'er Sheba est une ville située dans le désert du Negev, dans le sud du pays, et c'est là donc que Yosef a posé ses valises. Professeur de maths et physique à la retraite, il touche aussi une pension d'invalidité et en tout, il doit vivre avec environ 750 € par mois, ce qui est trop peu pour vivre bien en Israël. Alors la structure Be'er Sova est devenue une sorte de seconde maison pour Yosef. Et son directeur, Erez Nagaoka, explique que Be'er Sova correspond à ce qu'en Allemagne on appelle « soupe populaire ».
La plupart de nos clients sont des survivants de l'Holocauste, de vieilles personnes qui vivent seules. Souvent, ici, ils trouvent leur seul vrai repas de la journée. Quand je peux, je leur donne des restes pour qu'ils puissent les réchauffer une fois chez eux.
Le Be'er Sova, je vous le disais tout à l'heure, a aussi un service de livraison à domicile. Aujourd'hui, c'est une étudiante, Galit, qui est au volant du bus Volkswagen. Quand elle parle des survivants du génocide, Galit évoque une part invisible de la population d'Israël. Une fois plus, la pandémie de coronavirus a rendu la vie de beaucoup de ces personnes déjà vulnérables encore plus difficile en les isolant davantage.
La plupart du temps, ces gens sont seuls et restent toute la journée chez eux. On ne les voit pas dehors. Souvent, ils me demandent de leur rendre service et de faire certains trucs pour les aider dans leur appartement.
Galit se gare devant un immeuble en bordure de la ville. Aura, une retraitée, vit là avec son mari. Ils reçoivent régulièrement des repas de Be'er Sova et une fois par mois, on leur livre aussi un colis avec du riz, de l'huile, du thon. Enfin, ce genre de choses à avoir en réserve dans son placard. L'époux d'Aura a 84 ans et lui aussi a survécu à l'Holocauste.
En Israël, il existe une association qui entretient la mémoire des gens comme mon mari. Ils nous aident, ils nous appellent et parfois même, ils nous font des cadeaux. Ils nous demandent si on a besoin d'aide dans la maison ou de couverture chaude. Ils s'occupent de nous pour que mon mari sache qu'il n'est pas seul, qu'il y a des gens qui pensent à lui.
Ce qu'apporte Be'er Sova à ces vieilles personnes dépasse le simple aspect matériel.
On essaye de leur donner le sentiment qu'on est une sorte de centre communautaire ou un club pour retraités, parce que les vieilles personnes qui viennent nous voir n'ont pas d'argent pour s'inscrire dans des associations ou s'adonner à des loisirs. Je rêve donc de leur proposer un lieu où non seulement leur corps est rassasié, mais aussi leur âme.
Le gouvernement israélien a enregistré près de 174 500 survivants de l'Holocauste encore en vie dans le pays en 2021. En moyenne, ils ont cette année 84 ans. En pleine nuit, en matinée, en soirée, des fois pendant plus de 2 heures de temps. Les Sud-Africains ont dû s'habituer depuis des années maintenant aux coupures fréquentes d'électricité. Eskom, la régie publique de l'énergie, doit en effet rationner le courant pour délester le réseau. L'entreprise a annoncé il y a peu que cette situation allait durer encore longtemps, alors même que le pays est la deuxième économie du continent, que des navires générateurs pourraient livrer du courant à la population, sans oublier bien sûr l'énergie solaire dont l'Afrique du Sud pourrait regorger.
Des fois, il y a des coupures pendant qu'on cuisine. Alors on doit acheter de la paraffine et cuisiner dans des fours à paraffine. Quand on n'a plus d'argent pour la paraffine, c'est dur.
Mbali Chezi vit avec ses sœurs à Soweto, un township de Johannesburg. Sa sœur Andile Ngwenya va bientôt passer son bac, mais avec des délestages qui durent entre 2h30 et 4h de temps tous les jours ou presque, ce n'est pas facile de réviser pour ses examens.
Quand il n'y a plus de courant à 5h du matin, ils reviennent seulement vers 10h. Il faut bien que je me lève pour aller à l'école, alors je me lève avant 5h.
Qui dit pas de courant, dit pas de possibilité de recharger son téléphone portable et donc pas d'internet. Et en Afrique du Sud, la nuit tombe tôt.
Sans électricité, c'est difficile de réviser. On a beaucoup de devoirs à faire et sans courant, ce n'est pas faisable. Tu ne peux pas réviser à la lumière des bougies parce que si tu t'endors en apprenant ta leçon, tu peux mettre le feu à toute la maison.
Cela fait plus de 13 ans que le groupe Eskom rationne le courant dans le pays parce que le réseau est insuffisant pour répondre aux besoins des 60 millions de consommateurs. L'État a mis en place un système complexe de grades d'urgence pour répartir les coupures dans la durée et géographiquement selon les quartiers. Et ce n'est pas près de se terminer, comme l'a reconnu récemment un responsable du groupe Eskom. Dans les 5 prochaines années, l'entreprise va manquer d'environ 4000 mégawatts, soit l'équivalent des besoins de près de 10 millions de foyers sud-africains. D'après le PDG d'Eskom, André de Reuter, cela est dû à l'état déplorable des centrales du pays.
Dans les centrales, les transformateurs et autres équipements ont parfois été installés il y a 45 ans, mais nous projetons de tous les changer.
Les pannes ne sont donc pas rares dans les centrales de charbon ou centrales au fioul. La seule centrale nucléaire du continent ne fonctionne pas à plein régime. D'après une étude du Conseil de recherche scientifique et industrielle, Eskom, qui est le principal fabricant d'énergie de toute l'Afrique, n'aurait produit ces dernières années que 65% de l'électricité qu'il lui serait possible de produire en théorie. Les délestages vont coûter cette année jusqu'à 120 milliards de rands à l'économie du pays, soit environ 7 milliards d'euros. Sava Aspiri gère le café De La Crème à Johannesburg. Et comme tous ses concitoyens, eh bien, il est une victime collatérale de cette mauvaise gestion.
On ne fait pas d'affaires quand il n'y a pas de courant. On ne peut servir aucun café. Notre four ne peut pas marcher sans électricité. Alors, on ne peut pas faire de pâtisserie. Du coup, on ne peut pas payer nos factures ni les salaires. Ça nous touche de plein fouet. D'autant que les clients ne viennent pas quand il n'y a pas de lumière. Ils croient que c'est fermé. Alors on n'a plus qu'à attendre qu'ils rétablissent le courant. Ça dépend combien de temps ils mettent pour construire tout ça. D'ici là, on va devoir continuer à nous débrouiller avec Eskom.
Durant les 12 derniers mois, Eskom a dû rationner l'électricité 43 jours. Le PDG d'Eskom a présenté ses excuses aux Sud-Africains, mais la situation n'a pas changé. Le ministre de l'Énergie veut lui acheter 2000 MW supplémentaires à des fournisseurs privés qui seront raccordés au réseau à partir d'août 2022. L'entreprise turque Car Powership fait partie des fournisseurs sélectionnés qui tiennent la corde. Elle propose d'amarrer 3 navires générateurs géants dans les ports du Cap, de Port Elizabeth et de Durban. Ces navires produisent du gaz liquide. Le contrat sur une durée de 20 ans coûterait environ 12 milliards d'euros à l'État sud-africain. Peu à peu, les autorités se convertissent cependant aux énergies renouvelables. Le solaire et l'éolien pourraient apporter 2600 MW en plus au pays, répartis dans 11 parcs, mais les appels d'offres sont toujours en cours. Savi Spiri, le bistrotier de Johannesburg, se moque, lui, de savoir d'où vient son électricité. Tout ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne.
Ça dépend combien de temps ils mettent pour construire tout ça. D'ici là, on va devoir continuer à nous débrouiller avec Eskom.
D'autant que l'hiver approche et qu'il peut être très rude en Afrique du Sud. C'est la fin de ce magazine. Merci à Tim Asman pour les sons en provenance d'Israël et à Karin Wehrheim pour ceux d'Afrique du Sud. Pour podcaster Droits et Libertés, allez voir du côté de notre site internet www.com/français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.